SOS Doctor.
Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de choisir la CRTV Radio. Bienvenue à SOS Docteur de ce samedi. Pendant une heure d'horloge, nous allons parcourir un sujet intéressant, la santé mentale, qui nous concerne tous. Je vous invite à rester tout de suite. Le docteur Laure Mengeme, médecin psychiatre et sous-directeur de la santé mentale en service au ministère de la Santé publique, est notre invité. Bonsoir, docteur.
Bonsoir, Yvette.
Et merci d'avoir répondu présente à notre invitation dans le cadre de SOS Docteur de ce samedi. Docteur Mengeme, la santé mentale, octobre rose, y a-t-il un lien?
Lorsque l'on parle de santé mentale, ça veut simplement dire état de bien-être. État de bien-être qui permet à l'individu de se réaliser, de faire face au stress de la vie quotidienne, d'être productif et utile à la communauté. Maintenant, au octobre rose tourne autour tout ce qui a trait au cancer du sein, du col, etc. Donc, octobre rose a un impact sur la santé mentale, c'est-à-dire le bien-être physique. Les gynécologues ont à cœur cette partie du corps et ont à cœur aussi le bien-être. Généralement, quand on parle un peu d'octobre rose, ça touche beaucoup plus les femmes, beaucoup plus un peu la santé des femmes sur le plan gynécologique. Donc, tout ça est lié parce que malheureusement, quand on parle de santé mentale, les gens voient beaucoup plus l'aspect psychologique, mais santé mentale veut simplement dire bien-être. Il y a le bien-être physique. Le bien-être physique veut simplement dire quelqu'un en bonne santé physique. Bonne santé physique. Et quand on parle d'octobre rose, on parle de la prévention. La prévention de tous ces cancers-là de la sphère gynécologique.
Merci infiniment, docteur. Ensemble avec vous, nos auditeurs seront suffisamment édifiés. La partie technique est assurée par René Nant. À ce microphone de présentation, je suis Yvette Roux. Mesdames, Messieurs, restez sur la CRTV. Voilà, mesdames, messieurs, si vous venez de prendre l'écoute, vous êtes bien sûr les antennes du poste national de la CRTV et l'émission que vous recevez chez vous au travers de votre transistor, c'est bel et bien SOS Docteur. Notre invité ce soir, le docteur Laure Mengeme, médecin psychiatre et sous-directeur de la santé mentale au ministère de la Santé publique. Docteur Mengeme, d'entrée de jeu. Un thème aussi simple, qu'est-ce que c'est que la santé mentale?
Merci beaucoup, nous remercions la CRTV et tous ses responsables de toujours nous donner l'opportunité de sensibiliser, de faire la promotion sur ce volet important de la santé qu'est la santé mentale. La santé mentale se définit comme un état de bien-être. Bien-être qui permet à l'individu de se réaliser, de faire face au stress de la vie quotidienne, d'être productif et utile à la communauté. Ce qui est différent de la maladie mentale qui est une affection qui touche la sphère intellectuelle, affective et comportementale. Donc le plaidoyer que nous faisons ici, c'est que les populations puissent comprendre désormais que santé mentale est diamétralement opposé à maladie mentale. La santé mentale, c'est un état de bien-être et la maladie mentale, c'est une affection. Bien-être, c'est différent de maladie. Bien-être, c'est l'inverse de maladie et puis que ça nous concerne tous. Le bien-être n'est pas que l'affaire du ministère de la Santé publique, c'est l'affaire de nous tous, c'est l'affaire de toutes les structures, c'est l'affaire de toutes les administrations.
Merci infiniment, docteur. Alors, est-ce qu'on peut faire l'état des lieux de la santé mentale?
Voilà, merci beaucoup. L'état des lieux de la santé mentale au Cameroun. Sur le plan général, que toutes les couches sont concernées. Les enfants, les bébés ont des problèmes de santé mentale. Les jeunes ont des problèmes de santé mentale. Et justement, le premier problème de santé de notre jeunesse, la consommation de drogue, qui est déjà un problème de santé publique et un problème de santé mentale. Chez les personnes adultes, je parle d'abord en termes de maladies. Nous avons toutes ces maladies-là, les dépressions et autres, qui perturbent. Et chez les personnes âgées, nous avons la démence qui est de plus en plus retrouvée. Mais de façon globale, lorsqu'on parle de problèmes de santé mentale, c'est vrai que j'ai commencé à parler de la maladie mentale, mais il faudrait savoir que quand on parle de problèmes de santé mentale, c'est au premier niveau le mal-être. Et quand on parle donc de ce mal-être qui est un problème de santé mentale, l'état des lieux dans notre contexte est que, au vu du comportement que la population adopte, au vu du comportement que l'on observe, irritabilité, agressivité, violence, nous pouvons déjà dire dans notre contexte que le problème de santé mentale, au moins dans une première mesure, le mal-être est un problème de santé publique. Parce que le mal-être, on a l'impression qu'il est général. Sur le plan familial, les gens sont de plus en plus mal. Sur le plan conjugal, on a cette violence qui peut être active ou passive. Sur le plan professionnel, de plus en plus, y règne le mal-être. Sur le plan social également, avec cette violence, cette irritabilité, les situations de conflit, nous pensons qu'actuellement au Cameroun, nous n'avons pas une population atteinte en priorité d'une maladie mentale, mais que le mal-être règne en maître, et le mal-être qui est quand même un problème de santé mentale. Donc de façon globale un peu ça, c'est l'état du lieu, que toutes les couches sont concernées, que malheureusement, c'est une terminologie, c'est un concept qui n'est pas encore compris, parce que quand les populations, les décideurs, les responsables, que ce soit de famille ou de structure, vont comprendre que santé mentale, quand on parle de santé mentale, c'est simplement bien-être, et que c'est important d'en faire une priorité, parce que ça a un impact sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan médico-légal, sur le plan social et même sur le plan économique. Parce que si on a une structure, si on est dans une famille où on voudrait que les enfants soient productifs et qu'on ne mette pas le bien-être de sa famille au centre de ses préoccupations, il ne peut pas avoir de productivité dans cette famille. Tout comme sur le plan professionnel. Si la santé mentale, c'est-à-dire le bien-être des individus, n'est pas une priorité, comme ce qu'on a l'impression d'observer, alors on ne peut pas avoir une société productive, on ne peut pas avoir une société qui se développe. Juste pour dire que l'état des lieux actuellement, c'est la santé mentale des populations qui est en péril. Et comme on l'a dit, santé mentale qui dans un premier lieu est le mal-être. Mais maintenant, si le mal-être de l'individu n'est pas géré par lui-même, ou s'il ne se sent pas soutenu par son entourage, il tombe donc au deuxième niveau de problème de santé mentale, qui est la maladie mentale. Et l'état des lieux dans notre contexte, c'est que quand on parle de problème de santé mentale, malheureusement, les gens ne voient que le deuxième niveau, qui est la maladie mentale, mais qui ne représente que un dixième de la problématique de santé mentale sur laquelle nous voulons sensibiliser, mais les 9 dixièmes sur lesquels nous voulons sensibiliser, c'est ce mal-être-là qui n'est pas maladie mentale, mais qui détruit notre société à petit feu et à tous les niveaux. D'où l'importance de remettre le bien-être comme priorité, c'est-à-dire la santé mentale.
On peut donc dire que c'est une situation déplorable, docteur.
À l'état actuel des choses, oui, déplorable, mais parce que la donne peut être changée aussi rapidement que les choses se sont installées.
Tout à fait. Et comment inverser la tendance, docteur?
Inverser la tendance, vous le savez très bien. Lorsque l'on parle de la santé physique, pour toutes les problématiques, il y a la prévention. Prévention du diabète, prévention de l'hypertension, prévention des maladies cardiovasculaires, prévention aussi en termes d'hygiène mentale. Et l'hygiène mentale, pour que l'on soit soi-même dans un état de bien-être, ou que l'on soit dans une société où règne le bien-être, il faudrait que l'on replace l'amour au centre de notre existence. Même malheureusement, dans notre société, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais ce terme a été dénaturalisé. Voilà. On lui a donné un autre sens que celui qu'il a. Amour, ici, nous parlons d'amour qui signifie simplement bonne communication, bonne interaction, solidarité, prendre soin de soi et de l'autre. Si vraiment, dans notre société, à tous les niveaux de la société, à tous les postes de responsabilité, que ce soit sur le plan familial, social et autres, l'on mettait simplement cet amour au centre de notre existence, on verrait ce mal-être ou ces maladies mentales regresser. Ça, c'est de un. De deux, c'est très important actuellement parce que la vie est tellement stressante. Les gens sont dans un état de mal-être à cause des problèmes financiers, des problèmes conjugaux, des problèmes professionnels, des problèmes familiaux, au point où l'on ne sait même plus où donner de la tête. C'est important déjà, non seulement de mettre cet amour au centre de notre existence, mais de savoir qu'on doit avancer avec ces problèmes. Parce que généralement, quand on a des problèmes, on est seulement focalisé sur ces problèmes. Non, je n'ai pas d'enfant, je n'arrive pas à construire, je ne. Et ça ne nous permet pas de regarder un peu plus loin, de voir d'autres horizons et autres. Et sur le plan mental, être dans cette négativité de façon permanente ne fait ni du bien à notre corps sur le plan physique, ni du bien à notre mental, ni du bien à notre entourage parce qu'on est irritable, agressif, nerveux, ni du bien sur le plan professionnel, parce que dans cet état, si vous êtes tout le temps dans un état de mal-être, productivité, il n'y aura pas. Troisièmement, il faut pouvoir relativiser. Tous les problèmes ne doivent pas avoir le même niveau d'importance. Voilà. Tous les problèmes ne doivent pas avoir, mais tel a dit ceci dans le service, on a fait le Congo ça, tel a dit ceci. Alors je me mets dans tous les états, je suis énervée, agressive, au point où je transforme cette agressivité à domicile. Mais est-ce que ce Congo ça a des répercussions sur ce qui est important, c'est-à-dire mon salaire? Non. Est-ce que ça a des répercussions sur si mon foyer est important, la relation avec mon mari? Est-ce que ça a réellement l'importance dans la relation avec mon mari? Non. Mais pourquoi est-ce qu'on accorde tellement d'importance à tout ce qui est secondaire, tout ce qui est... Et vous voyez que toute notre vie n'est focalisée que là-dessus, sur des choses qui n'ont pas d'importance, mais dont on accorde de l'importance. Donc vraiment, ça revient à dire que chacun détermine ses priorités. On est tellement focalisé à l'extérieur. Il faut ceci, il faut cela, il faut ce... Moi-même, à la fin, je veux quoi? J'aspire à quoi? Et le noter en premier lieu, qu'est-ce qui est important pour moi? Ma vie familiale, notre vie familiale, vie professionnelle, vie... Alors, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, si ça n'a pas un impact sur ces éléments, mais on reste zen. Relativiser, prioriser, identifier ses sources de plaisir. Maintenant, se faire même plaisir, on culpabilise. C'est-à-dire que j'ai un salaire de 150 000. Si je dis que je m'achète aussi une paire de chaussures qui me plaisent, alors je culpabilise même en achetant parce que je me dis, voilà, cet argent aurait pu servir à payer le loyer, à payer la scolarité de l'enfant. Mais toute une vie pour la santé mentale, c'est-à-dire le bien-être de l'individu, le bien-être de ce corps, on ne peut pas être là que à résoudre les problèmes des autres, de la société, sans s'occuper de soi-même. De temps en temps, prenons du recul pour savoir ce que ce corps, cet être-là même, aime. Et on lui fait plaisir. Si c'est danser, prenons le temps pour danser. Même au bureau, quand on voit qu'on est dans un état de malaise, on a les écouteurs. Au lieu d'être désagréable vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des collaborateurs, on peut prendre les écouteurs, on ferme la porte et on danse. On chante. Si c'est un repas, alors je m'assieds, je mange mon repas, mais sans culpabiliser, parce que ça ne sert à rien d'entrer dans un restaurant, s'offrir un plat de 10, 15 000 et culpabiliser, c'est-à-dire se mettre dans le cœur. Ouais, cet argent que je suis en train de gaspiller là, ça aurait pu faire... Non, 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 dans ce cas, vous faites plus de mal que de bien. Ça veut dire vraiment, on jouit de ce plat de nourriture, de façon à ce qu'on soit maintenant rempli de positivité qui va nous permettre de faire face à la négativité ambiance. Le sport, c'est important, l'exercice physique, parce que non seulement c'est des bienfaits sur le plan physique, mais également sur le plan mental. La confiance en soi, ça augmente l'estime de soi, ça augmente la résilience, c'est-à-dire la capacité de faire face aux difficultés. Ça augmente. Si vous avez des difficultés avec quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport, alors vous êtes mal parti, vous qui ne faites pas du sport, parce que lui, il est endurant, il est persévérant. L'hygiène de vie aussi, c'est important. Sourire, sourire, sourire. Parce que dans notre société, on a l'impression que quand vous souriez, c'est que vous avez gagné de l'argent. Voilà. Parce que être dans un état de bien-être, sourire, ça veut dire qu'on a l'argent. Non, vraiment, c'est des choses simples qui nous mettent non seulement nous dans un état de bien-être, mais aussi physiquement, parce que ça libère des substances qui font du bien au corps, mais ça fait aussi du bien à son entourage. Faire du bien, gratuitement, parce que maintenant, on ne peut plus rendre un service si on n'a rien en contrepartie. Et si on est dans une société comme ça, c'est extrêmement mauvais pour la santé mentale, le bien-être. Pour être dans un état de bien-être, il faut qu'on apprenne à faire des choses gratuitement. Il faut qu'on apprenne à faire des compliments, à se dire des choses positives. La religion, c'est important. Pour notre santé mentale, c'est, sur le plan social, c'est important aussi les médias, les réseaux sociaux. Parce qu'au quotidien, c'est le lieu où on distille le plus de négativité, que ce soit dans le visuel, que ce soit dans le verbal, dans l'écrit. Donc, au quotidien, dans cet outil-là, dans les médias, il nous distille le mal-être. Au Cameroun, tout est négatif. Au Cameroun, les gens sont négatifs. Au Cameroun, que de la négativité. Mais, Madame Yvette, est-ce que dans ce pays, il n'y a pas des choses aussi positive qu'on peut valoriser.
Valoriser, tout à fait.
Est-ce que l'on est obligé de mettre à épreuve notre santé mentale, qui a un impact sur la santé physique?
Tout à fait, tout à fait.
Sur le mental même des populations, sur le social, sur le plan économique également. Est-ce qu'on est obligé d'aller autant, de donner autant de mal-être au quotidien? Donc nous sommes dans une société, malheureusement, qui cultive le mal-être. Et il faut donc qu'on sache que ça a des répercussions sur la santé mentale, la santé physique, sur le plan médico-légal, social et économique. Apprenons en termes de prévention pour qu'on soit une société dans un état de bien-être, à valoriser des choses positives. Il y a des personnes qui posent des actes positifs, qu'on les valorise. Il y a des grandes et bonnes choses qui sont faites, qu'on les valorise. Donc, tout ça a un impact pour qu'on soit donc dans un état de bien-être dans notre pays.
Alors, tout à l'heure, parlant de cibles, vous avez parlé des tout-petits. Hein,
voilà.
Alors, comment est-ce que ça s'explique?
Les maladies, on parle de problèmes de santé mentale ici. Il y a le mal-être. Les tout-petits peuvent être dans un état de mal-être. Vous avez un enfant de 3 ans, de 4 ans, qui a 5 ans, qui va jusqu'à 5 ans, qui a perdu son parent, sa maman. Alors, vous pouvez observer des signes de mal-être. Si ce n'est pas géré par l'enfant ou soutenu par l'entourage, si cet enfant n'est pas soutenu par l'entourage, tombe donc dans la maladie mentale que la dépression et autres. Donc, le mal-être, ça touche les enfants. Donc, quand il y a des pertes, une perte parentale, quand il y a des maltraitances, oui, avec la baisse des résultats scolaires, avec le refus de s'alimenter, avec... Donc, il y a des petits signes comme ça, là, qui peuvent orienter et faire penser qu'un enfant qui était joyeux et qui maintenant a tendance à rester en retrait, à s'automutiler, a un problème. Ça, c'est concernant le mal-être. Maintenant, il y a la maladie mentale.
Mentale, oui.
Voilà, qui peut avoir des causes génétiques. Comme on a des enfants qui sont génétiquement prédisposés, par exemple, au diabète, il y a des bébés qui naissent. On a aussi la même chose avec les maladies
mentales.
Voilà, donc il faut savoir qu'il y a une prédisposition génétique.
Génétique.
Voilà, alors, il y a des maladies aussi comme l'autisme qui peuvent survenir chez un enfant qui a 3 ans, 4 ans, qui avait déjà 2 ans et même moins, mais les symptômes deviennent plus
palpables
à ces âges-là. Parce qu'à un moment, l'enfant a acquis des compétences et brutalement ou progressivement regresse. C'est-à-dire qu'il y avait de bonnes interactions avec les autres petits-enfants, le langage était déjà quand même acquis, et puis brutalement ou progressivement, il regresse. Dans notre contexte, on va dire que c'est la sorcellerie, qu'on a gâté l'enfant et autres, alors que c'est simplement le fait de la maladie mentale. Maintenant, on a parlé de la dépression et d'autres troubles. C'est des personnes comme les autres quand elles subissent donc tous ces événements à tonalité négative et qu'elles ne sont pas soutenues, elles ne sont pas encadrées, alors elles peuvent tomber dans la maladie mentale.
Alors, docteur, est-ce qu'on peut citer ici quelques maladies mentales que nous avons dans notre contexte?
Les maladies sont en fonction de l'âge. Mais la plus retrouvée, c'est la dépression masquée. Parce que l'on a l'habitude de penser que quand on parle de maladie mentale, ça veut dire un individu qui est déconnecté de la réalité, qui marche nu, qui parle seul. Alors que ce type de maladie ne représente que 1/100 de toutes les maladies mentales. Les 99 qui restent, l'individu est connecté à la réalité. Les maladies qui déconnectent, là, c'est le 1/10 des maladies mentales, les 9/10. L'individu est connecté à la réalité. L'individu est comme vous, comme moi. On vague à nos occupations. Mais sur le plan mental, c'est-à-dire la santé mentale de l'individu, ça ne va pas. Les gens viennent consulter pour insomnie et céphalée. Voilà, céphalée, ce sont les maux de tête. Et parfois, les cervicalgies. C'est-à-dire que les nerfs, ça tire. On vous dit qu'on a déjà massé avec le small nobisic et autres. Et parfois, c'est les douleurs pelviennes, lombaires et autres. Et la particularité généralement de ces douleurs, c'est qu'on a déjà vu tous les spécialistes et le bilan est revenu normal. Dans notre contexte, on pense que c'est la sorcellerie, c'est mystique. On a lancé, puisque les bilans sont normaux. Mais la particularité également ici, c'est que quand on creuse dans la vie de l'individu, on se rend compte qu'il vit des situations difficiles. Vous allez voir, par exemple, si c'est une dame qui consulte, insomnie, céphalée, et puis les nerfs qui tirent. Quand vous investiguez dans sa vie, elle va vous dire, par exemple, qu'elle est Bayam Salam. Elle est mère de 6 enfants. Elle est mariée, mais elle ne s'en sort pas. Et ça, elle fond en larmes. Elle ne s'en sort pas. Pourquoi? Parce que c'est avec ce poisson-là qu'elle paye le loyer, qu'elle envoie les enfants à l'école, qu'elle nourrit la famille. Et vous lui demandez ce que le mari fait. Le mari est là, le mari ne l'aide pas. Vous voyez, elle fond en larmes. Elle est venue, c'était pour céphalée, insomnie et cervicalgie. Voilà. Donc, on pose donc. Et ça évolue depuis combien de temps? Ça évolue depuis 2 mois. Est-ce que de temps en temps, vous pleurez? Oui, ça arrive de temps en temps. Et là, elle fond en larmes. Et elle vous décrit un peu son quotidien fait de difficultés, fait de souffrances, fait de sacrifices. Dépression masquée. Vous avez des hommes comme ça. La même symptomatologie, ils viennent pour ça. Mais quand vous investiguez, c'est parce qu'il s'est rendu compte que son épouse avait peut-être des relations avec le chauffeur. Et c'est à ce moment qu'il vous dit que oui. Je crois que c'est même depuis ce jour-là que j'ai commencé à avoir mal à la tête et autres. Donc, vous voyez comment des gens vivent des situations stressantes, chroniques, qui aboutissent à ça. Mais ils travaillent. Ben, dites-moi donc comment ce monsieur ou cette dame, si elle est dans un bureau ou même ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle va être réellement productive? Il y aura un impact. Parce que sur le plan physique, l'individu souffre. Il y a une douleur, mais une douleur qui est d'origine psychologique. Parce qu'il vit des situations stressantes. Trop de stress de façon chronique et en intensité libère des substances. Il y a l'adrénaline qui va léser progressivement les organes. Et c'est ce qui provoque ça. C'est pas que, comme on dit souvent, les gens disent, non, la douleur là est dans ta tête. C'est pas que c'est dans la tête, mais sur le plan organique, il y a des choses qui produisent ça. C'est pour ça que nous conseillons qu'en premier lieu, au lieu d'aller chez les prêtres exorcistes, tradis praticiens, qu'on salue par ailleurs, mais la première attitude, c'est de venir à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, vous aurez cet accompagnement-là, vous aurez des médicaments qui vont réguler un peu ces substances-là qui vous perturbent, et vous aurez un accompagnement psychologique. Il y a la dépression, qui est la plus retrouvée, les troubles psychotiques, c'est-à-dire de plus en plus, les gens délirent, racontent des histoires qui n'ont rien à voir avec la réalité, disent des choses également qui n'ont rien à voir avec la réalité. Si quelqu'un dit qu'il a le serpent dans le ventre et prend le couteau et s'ouvre le ventre devant vous, dans un premier temps, dans notre contexte, on va penser à la sorcellerie. Mmh. Alors que c'est simplement un cerveau. Parce que ici, quand on parle de maladie mentale, c'est le cerveau qui est malade simplement. Comme le rein peut être malade, le foie peut être malade. Le cerveau est malade. Il raconte des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il voit des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais dans notre contexte, on les insulte, on les stigmatise, on les rejette. Donc, quand des gens ont le rein, le foie qui est malade, on soutient, on accompagne. Mais une fois que le cerveau est malade et que l'on raconte des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, on se dénude. Alors, c'est un régal apparemment pour la société. On filme la détresse des individus. On filme les individus dans leur crise. On insulte, on bastonne les individus dans leur état de maladie, simplement parce que le cerveau est malade. Madame Yvette, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui accepterait spontanément d'avoir son cerveau qui dysfonctionne et de présenter ces symptômes-là?
Non, jamais, jamais.
Voilà. Bon, maintenant, il y a des choses qui ne nous aident pas beaucoup. On a l'habitude de voir ces films-là. Les films nigériens, par exemple. Nous-mêmes aussi, on fait ces films-là. On n'est pas contre. Parce que la réalité, sur le plan anthropologique, l'Africain explique le trouble du comportement par une cause mystique. La personne a voulu nuire. Bref, un apport extérieur. Paranormal. C'est l'explication culturelle de la maladie chez l'Africain. Mais maintenant, on n'est pas contre les films. Les films ne traduisent que l'explication culturelle, voilà, du trouble du comportement en Afrique. Mm-hmm. Mais la médecine a avancé. On est d'accord avec les avancées de la médecine dans tous les domaines. Le domaine hépatique, le domaine sur le plan rénal, sur le plan cardiovasculaire. Mais le seul domaine sur lequel on peine aussi à avancer, c'est sur le plan mental. Parce qu'on s'agrippe toujours là. Docteur, comment vous savez que ce n'est pas mystique? Nous, on a nos considérations. Nous, on a nos réalités ici en Afrique. Mais nous, on est psychiatres. L'école, on a appris dans des livres. Ce n'est pas les Africains qui ont fait ces livres. Les maladies dont je vous parle, et ça se retrouve en Asie, ça se retrouve en Europe, ça se retrouve partout dans le monde. Voilà. Si le trouble du comportement, tout ce qu'on observe là, était seulement l'apanage de l'Afrique ou du Cameroun, voilà, on aurait pensé cela.
Tout à fait.
Mais quelque chose que l'on retrouve dans le monde entier. Pourquoi vous voulez-vous toujours que l'on accepte, nous spécialistes, que cette maladie soit mystique, alors que l'on sait que sur le plan social, il y a tellement de causes ou facteurs de risque qui peuvent entraîner ça?
Exact.
Les gens ont des problèmes sur le plan financier. Puis ils ont des problèmes sur le plan professionnel, sur le plan familial, parce qu'aujourd'hui, la famille est l'un des plus grands stresseurs.
Oui.
Donc, en cette santé mentale, c'est-à-dire du bien-être, nous tenons à sensibiliser les populations sur le fait que si l'on ne remet pas l'amour, c'est-à-dire bonne communication, bonne interaction, solidarité, prendre soin de soi et de l'autre, au centre de notre existence, nous allons avoir une population qui sera de plus en plus dans un état de mal-être avec les troubles du comportement que ça va entraîner, et une population qui aura de plus en plus de personnes atteintes de maladies mentales. Et si elles ne sont pas sensibilisées par rapport à cela, on aura de plus en plus de personnes qui iront chez les prêtres exorcistes, tradis praticiens.
Vous avez fait allusion à la bastonnade tout à l'heure. On a l'habitude de voir
des foules parce qu'on décrit un comportement en disant que cette personne a atterri forcément par un avion de nuit. Que pensez-vous de cela, docteur?
Merci beaucoup d'avoir attiré notre attention sur ce sujet. Parce que les avions de nuit, les personnes qui atterrissent, ça renvoie généralement aux personnes âgées.
Oui.
Ce qu'on appelle généralement les vieux dans notre contexte. Et la maladie qu'on a, les études ont montré qu'en fait, ces personnes souffraient d'une maladie, la démence. Ce qui a lieu de savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de cas de démence. Et la manifestation, c'est quoi la démence? C'est-à-dire que, pour dire simplement, avec l'âge, comme le corps vieillit, les cellules du cerveau, parce que tout est cérébral, c'est le cerveau, les cellules aussi du cerveau vieillissent et finissent par mourir. Et vous savez que la commande de tout, c'est le cerveau. Si on respire, si on pense, si on raisonne, si on aime, parce que on parle le cœur là, mais tout commence aussi par la tête. Donc, si vous avez donc cet organe-là, capital, déterminant pour la vie de l'individu, qui est sujet progressivement à la destruction, c'est des fonctions qui partent. Et on peut avoir tout type de symptômes. Et les symptômes les plus retrouvés, c'est les troubles de mémoire, les troubles du comportement. Et dans les troubles du comportement, on peut avoir les délires. La personne raconte des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il y a l'agitation, cette subagitation-là. Il y a la déambulation. Il déambule. Si vous ne fermez pas la maison, il sort. Et parce qu'il y a les troubles de mémoire, il ne se retrouve plus. Le chemin retour, il va seulement avancer. Et justement, on les retrouve donc dans des environnements où personne ne les connaît. Eux aussi ne connaissent personne. Vous posez des questions, vous dites des choses. Ils sont incapables de répondre. Vous, vous croyez que parce que c'est mystique, parce qu'ils ne veulent pas répondre, on frappe, on dit ceci, alors que c'est simplement parce que...
Ils sont
voilà, il y a des troubles de mémoire, déjà, le cerveau ne fonctionne pas normalement. Donc, de façon globale un peu, nos parents, à qui on adresse un spécial bonjour ce soir, et beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile, sont de plus en plus victimes de maltraitance. Parce que face à cet état de fait-là, il raconte des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il pose son porte-monnaie dans la chambre. Il se met à chercher partout au salon en disant qu'on a volé. Ils peuvent même aller au commissariat porter plainte et autres. Donc, on finit par les taxer de sorcières, de malsaines et autres. Parfois, elles deviennent cyniques, c'est-à-dire qu'elles peuvent susciter des conflits, des problèmes dans les familles en tenant des discours qui ne tiennent pas, en mal parlant de... C'est le cerveau. Donc, chaque fois, et vous voyez quand la population n'est pas informée, donc, on se dit, mais comment maman peut faire ça? Comment papa peut dire ça? Lui, le chef, puisque en plus, c'est du chef. Et comme dans notre contexte, nous, on pense que la maladie mentale, c'est seulement quand tu t'es dénude, quand... Donc, personne ne pense en premier lieu à une maladie mentale. Donc, ici, quand vous avez votre parent dont le comportement change progressivement ou brutalement, la première des choses, c'est de l'amener également chez un spécialiste en santé mentale pour qu'il puisse essayer de faire une évaluation et de déterminer si on n'est pas en face d'une dégénérescence du cerveau.
Tenant compte de notre contexte, beaucoup plus je vais quand même parler du plan socioculturel, comment faire pour remédier avec toutes les croyances, tout ce que vous pouvez imaginer, et puis à votre poste de travail, au quotidien, ce que vous rencontrez, il y a des problèmes, mettons le doigt sur l'abcès. Quelles sont les solutions, docteur?
Les solutions, on revient toujours là-dessus, c'est l'amour. Et l'amour, ça veut dire que dans les médias, que l'on cesse de nous distiller au quotidien de la violence, des scènes de violence, des paroles de violence, un visuel de violence, et que l'on remplace simplement par aussi l'amour. Dans nos journaux, dans nos médias, combien de fois on a vu ce terme « amour » ? On peut compter, c'est extrêmement rare, mais violence, abus sexuel, maltraitance. Mais quand déjà sur le plan social, on est dans un mode de fonctionnement, ça commence, non seulement cet amour c'est individuel, mais sur le plan social, chacun a sa part de responsabilité. Mais le problème c'est dans nos sociétés, c'est que chaque fois qu'il y a une problématique, Personne ne veut voir sa part de responsabilité. Je suis chef de famille. Ma part de responsabilité de ce phénomène, c'est quoi? Je suis responsable d'une structure. Ma part de responsabilité dans cette problématique, c'est quoi? Je suis journaliste. Ma part de... Non, c'est le gouvernement. C'est le MinSanté. C'est le MinCom. C'est le. Mais le MinSanté, c'est qui? Le MinCom, c'est qui? C'est nous tous.
Tout à fait.
C'est tous.
Tout à fait.
Voilà. Donc, que l'on cesse un peu de jeter la pierre sur l'autre. C'est l'autre qui doit faire. C'est l'autre. En termes d'amour, tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? On remet l'amour au centre de notre existence. C'est tout. Pardon. Bonne communication, bonne interaction, solidarité, prendre soin de soi et de l'autre.
Parlant donc de l'amour qu'on doit remettre au centre de tout, je vous tire un chapeau par rapport à l'action que vous avez menée récemment, cette grande campagne de sensibilisation où vous avez ramené les personnes qui erraient dans la rue à rejoindre les familles. Après leur avoir distillé cet amour, on a vu qu'ils ont retrouvé la santé au top. Docteur Mengeme, c'était une très belle initiative.
Merci beaucoup. Ce que l'on doit d'abord dire, c'est que santé mentale égale bien-être. Et la base du bien-être, c'est l'amour. Donc, ce que l'on fait, ce n'est pas quelque chose d'extra. Nous sommes dans nos missions, c'est-à-dire restaurer le bien-être à ceux donc qui sont dans un état de mal-être ou qui ont une maladie mentale. C'est ça la santé mentale, c'est-à-dire état de bien-être. Donc, nous, professionnels de la santé mentale, notre mission... Donc, c'est de prendre dans tout ce monde-là qui est dans un état de mal-être ou maladie mentale pour leur redonner le bien-être. Donc, nous sommes dans une autre mission. Et ici, c'est une initiative de la communauté urbaine de Yaoundé, à qui nous disons un grand merci. Et en collaboration avec le ministère de la Santé publique, notre hiérarchie encore, à qui nous disons merci. Et c'est... Ces initiateurs, notamment la communauté urbaine en premier lieu, monsieur le maire de la ville, qui dans son souci de mettre de l'ordre, pour parler simplement, dans la ville de Yaoundé, a estimé, et ce qui est normal, que les malades, parce qu'ils se sont rendus compte que ce sont des malades, la place du malade est soit dans une formation sanitaire, soit à domicile. Donc c'est dans cette optique-là qu'il a initié donc, cette activité, en collaboration donc avec le ministre de la Santé publique. Nous sommes à plus de 300 personnes que la communauté urbaine prend en charge. Et le ministère de la Santé, ce n'est pas Dr Mengene. Environ 150 personnes sont prises en charge à domicile, c'est-à-dire à la suite de la sensibilisation. Ces personnes ont appelé soit le 15-10, parce qu'il faut savoir que dans le 15-10, numéro vert du ministère de la Santé publique, il y a aussi l'assistance nationale psychologique. Si vous avez des problèmes de mal-être ou une maladie mentale ou besoin d'informations en tout ce qui concerne la santé mentale, appelez simplement gratuitement le 15-10 et vous aurez ces informations. Donc les familles avaient les leurs dans la rue. Elles ont donc appelé, elles nous ont contactés et étaient d'accord pour qu'ensemble on les prenne dans la rue pour les prendre à domicile. Actuellement, ils sont... plus de 150 que l'on prend en charge à domicile. La dernière étape a été celle de prendre en charge ceux que les familles ont abandonnés et qui se retrouvent encore dans les rues. Donc actuellement, aujourd'hui, là, ils sont à 146 au village de l'amour. Site réhabilité par la communauté urbaine que l'on remercie. Les chiffres fluctuent parce qu'à peine ils sortent que d'autres rentrent et ils sont pris en charge gratuitement. Nutrition, hygiène, alimentation. Donc, on parle beaucoup plus du village de l'amour. Mais si. Il faut savoir qu'il y a déjà plus de 150 qui sont prises en charge à domicile.
À domicile.
Et ici, le plaidoyer est fait auprès des familles. C'est vrai. Peut-être qu'il y a une cause mystique. Peut-être qu'il y a une cause paranormale. Mais le simple fait que l'on puisse voir que nous, professionnels de santé mentale, on n'a pas fait les études de sorcellerie. On n'a pas fait les études mystiques. On les prend en charge. Actuellement, ils sont une quarantaine déjà stables et qui veulent rentrer à domicile. Nous prions ces familles, nous les supplions de venir chercher les leurs et qu'elles sachent qu'elles ne seront jamais seules parce que ceux qui sont en communauté, en famille, ces mêmes équipes descendent une fois par mois donner les médicaments et s'assurer que ces derniers vont bien. Sachez qu'actuellement, ils sont dans un état de mal-être parce qu'ils veulent déjà travailler, ils veulent reprendre leur vie. Pour ceux qui sont sceptiques, qu'ils viennent simplement au village de l'amour et les voir. Ce sont effectivement nos frères et sœurs qui marchent ou qui marchaient nus dans les rues, qui mangeaient dans les poubelles. Et ce que je tiens à rappeler, c'est que ces gens, ces personnes, nos frères et sœurs que l'on voit dans la rue dans cet état sont atteints d'une maladie qu'on appelle la schizophrénie. Dans cet état, ces personnes sont en crise. Ce n'est pas leur état définitif. Ils sont en crise. C'est comme quelqu'un qui fait sa crise de diabète, d'hypertension. Mais quand il fait sa crise, il est invalide. Il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire. Mais une fois qu'on les prend, comme on les a pris là, pour les amener au village de l'amour, on les prend en charge, on les stabilise et ils reviennent. Les stigmatiser aussi, les rejeter, vraiment nous souhaitons que l'on change d'attitude. Quand dans la rue, nous voyons quelqu'un qui tombe ou un accident de circulation, tout le monde se mobilise pour l'amener. On ne les connaît même pas.
Tout à fait.
Dans une formation sanitaire. On souhaiterait que les populations adoptent la même attitude parce qu'à partir de ce moment, de cette minute, nous pensons qu'ils sont déjà informés que c'est le cerveau aussi qui est malade. Mmh. Quand on voit quelqu'un devant nous qui se dénude, en premier lieu, ne pensons plus à quelque chose de mystique, de paranormal. Juste par curiosité, faisons un effort de les prendre, même les familles, faisons un effort de prendre notre membre de famille pour l'amener. Soit au village de l'amour, soit voir un spécialiste en santé mentale. En passant à l'hôpital Jamou, voir un psychiatre, que ce soit docteur Bongo ou docteur Kamga ou docteur Mengene que je suis, ça coûte 600 francs. Parce qu'on a l'habitude de dire, qu'est-ce que l'État fait? L'État a mis en place des structures. L'État a mis en place un personnel, même s'il est encore insuffisant, mais il est là. L'État, ici à Yaoundé, il y a ce coût pour la consultation. Et je vous défie, l'hôpital Jamou est un hôpital de deuxième catégorie. Il n'y a pas un hôpital de deuxième catégorie qui a ces prix-là. L'État s'est encore mobilisé pour prendre en charge même ces personnes-là de la rue à travers la communauté urbaine et le MINSA. Maintenant, le dernier acteur, ce sont les familles. Pendant longtemps, vous avez demandé qu'est-ce que l'État fait, qu'est-ce que la société fait. Nous vous disons, l'État, depuis longtemps, avait déjà pris ses responsabilités, mais plus que jamais, est encore monté d'un cran dans ses responsabilités. Le dernier acteur que nous attendons, c'est vous, les familles. Ils sont stables, ils sont au village de l'amour. Nous vous disons, nous n'allons pas les abandonner, nous continuerons la prise en charge à domicile, mais de grâce, venez les chercher, venez les récupérer, parce qu'ils sont dans un état de mal-être et risquent de décompenser à nouveau.
Alors j'espère que votre appel n'est pas tombé dans des oreilles de sourds, docteur Mengene. Alors j'aimerais quand même que nous parcourions certaines des maladies mentales, parlant par exemple de la psychose délirante aiguë. Comment est-ce que ça se manifeste? Quels sont les signes?
Merci beaucoup, madame Yvette. Je constate que vous êtes déjà un spécialiste en santé mentale, parce que parler de psychose délirante aiguë, c'est un terme vraiment très technique. Merci beaucoup de nous ramener un peu dans la technicité. Voilà, c'est un trouble, nous on appelle trouble psychotique parce qu'il y a beaucoup de types de troubles ou de maladies. Et la psychose délirante aiguë appartient au type de maladie qui déconnecte l'individu de la réalité. La particularité, c'est que la personne délire. Elle survient chez l'adulte jeune, donc généralement avant 35 ans, 30 ans. Et le paroxysme, généralement, c'est 18-25 ans. Ou de façon brutale, la personne commence à raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Quand on dit brutal, ça veut dire quoi? Madame Fou, on est ensemble là, dans ce studio, on bavarde normalement. Et vous me dites que vous allez au petit coin. Et quand vous revenez, quelques secondes après, alors qu'il y a du calme, vous vous montrez agressif vis-à-vis de moi en me demandant pourquoi est-ce que je vous insulte. Et moi, de mon côté, bon, je me retourne pour voir s'il n'y a pas une tierce personne. Mais je constate, et vous me faites comprendre que c'est moi le problème. Que depuis que vous êtes assise là, je vous insulte. Mais moi, je vous dis non. Et bon, on reste encore. Et 5 minutes après, vous faites la même chose, plus agressive, vous venez même vous me frapper en vous plaignant, en criant que c'est trop, que je passe le temps à insulter vos parents, je passe... Voilà. Vous percevez des choses que personne d'autre, et on peut être là dans le studio à 4, à 5, personne ne perçoit. Oh, mais on vous voit dans tous ces états, vous criez, vous, et tout le monde se regarde. On va donc dire que c'est mystique. La soudaineté, la brutalité. Voilà, il est parti. Et dès qu'il revient, ça commence. Au quotidien, les gens vivent ce type de situation. On va vous dire que non. Mais il était là, tout était normal. Mais comment est-ce que dès qu'il est parti, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas?
Un élément déclencheur.
Voilà. Mais comme aussi, la psychose de l'élément aigu, c'est aussi... On parle de coups de tonnerre dans un ciel serein. Ça dit qu'il peut ne rien y avoir à ce moment-là. Et ça se déclenche. Donc, nous invitons les populations à vraiment se rapprocher d'une unité de santé mentale, d'un service de santé mentale. Chaque fois que l'on a en face de soi un comportement anormal, et de ne jamais oublier que le cerveau est comme un ordinateur, c'est même plus performant que l'ordinateur, parce qu'il me semble qu'on a fait l'ordinateur à l'image du cerveau, on a essayé.
On a essayé.
Voilà. Donc, imaginez donc un ordinateur qui bug, je crois que c'est le terme qu'on a l'habitude de dire.
D'utiliser.
Donc, quand l'ordinateur ne fonctionne plus bien, vous appuyez la touche A, ça peut vous mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
En continu.
Voilà, en continu. Et si vous ne réparez pas, ça ne fait que le dysfonctionnement là ne fait que s'aggraver. Jusqu'au moment où dès que vous allez même appuyer, ça s'éteint. C'est la même chose que le cerveau fait. On ne peut même pas imaginer le type de comportement qu'un individu peut adopter lorsque le cerveau ne fonctionne pas. Tout ce que l'on doit savoir, c'est que quand je suis en face de ma personne que je ne reconnais plus, non, je ne pense pas en premier lieu à quelque chose de mystique, de paranormal.
Tout à fait.
J'ai une femme qui me dit à cette minute que j'adore mes trois enfants. Sans ces enfants-là, je ne suis rien. Et la minute d'après, les prend, les jette dans un puits. On la voit jeter ses enfants dans un puits. Les gens lui demandent pourquoi elle a fait ça. Elle dit qu'elle n'a rien fait. Qu'est-ce qui va se passer? On va la bastonner. On va la lyncher parce qu'on dit qu'elle est mauvaise, elle est négative, c'est le mauvais esprit et autres. Nous invitons les populations. Il y a des maladies, par exemple, comme la schizophrénie, qui peuvent donner ce type de comportement-là. Mais ce qui est sûr, c'est que généralement, quand quelqu'un passe à l'acte comme ça, c'est qu'il y avait déjà au préalable des signes. Mais on n'a pas prêté attention. Donc, ne versons pas dans le mystique en premier, dans le paranormal, parce que le cerveau, comme tous les autres organes, peut être malade et donner ce type de manifestation.
Alors, docteur, si on parlait également de troubles bipolaires, on retrouve les cas de troubles bipolaires dans notre contexte?
Voilà, beaucoup. Beaucoup. Et à titre d'exemple malheureux, il y a quelques mois, ça fait peut-être 6, 7, 7 mois ou quelque chose comme ça, un peu plus, on a vu dans les médias une jeune dame qui courait nue. Et là, on a reconnu une étudiante, c'est une étudiante et une patiente, dont la nudité était exposée comme ça dans les réseaux sociaux avec tout type. Et nous, ce qu'on a fait à ce moment, c'est qu'on a cherché à la contacter. La scène s'était peut-être passée 4 jours ou 5 jours avant et la famille nous a dit que oui, tout était rentré dans l'ordre, on a pu. Et vous n'imaginez pas sur le plan psychologique ce que cette étudiante peut vivre. Donc, dans le trouble bipolaire, quand on dit bipolaire, c'est bi, ça peut être dans le sens de la dépression ou l'accès maniaque. Ce que l'on nous montre souvent dans les réseaux sociaux, les gens qui se dénudent généralement et qui sont dans un état d'agitation, c'est des personnes qui présentent un accès maniaque, où c'est l'agitation, la dénudation comme ça. Et vous allez voir tout le monde, la société s'emballer, les commentaires, ça va dans tous les sens, pratiques mystiques. Elles veulent acquérir certaines choses, elles veulent atteindre certains objectifs.
Comme on est magique.
Voilà. Donc, c'est un trouble de l'humeur. C'est-à-dire, l'humeur qui peut être exacerbée et donner l'accès maniaque avec l'agitation. On parle beaucoup, on se dénude, on fait des va-et-vient, on donne. Il y a la prodigalité, on donne. ce qu'on a, on donne. Et l'inverse, qui est la dépression. On est plutôt dans son coin, on est en retrait, on est inhibé, on ne parle pas. Et la particularité donc de ce trouble bipolaire, c'est que les passages à l'acte, le suicide, est fréquent. Soit dans sa crise de dépression, oui, parce qu'on est mal, on n'a plus envie de vivre, il n'y a plus le goût à la vie, on peut se donner la mort. Et même se donner la mort encore. Et comme on n'a pas vu la personne se dénuder, avoir une symptomatologie bruyante, alors on va encore penser à quelque chose de mystique, de paranormal, alors que la personne vivait des choses et avait même des envies de suicide. De plus en plus, on a des personnes qui ont des envies de suicide. Mais dans notre société, on en rit. On s'en moque. Et puis on dit, tu veux dire que tu as plus de problèmes que qui ? Voilà. Que moi, même si je ne pouvais pas me suicider, est-ce que tu penses que tu as plus de problèmes que moi ? Mais tous, nous avons peut-être 40 ans, le même âge. Mais nous n'avons pas tous le même background. Nous n'avons pas tous les mêmes expériences. Nous n'avons pas tous le même patrimoine génétique. Il y a des gens qui naissent déjà prédisposés. Et vous pouvez, c'est pour ça que vous pouvez vivre les mêmes situations, mais ne pas réagir de la même manière. Parce qu'il y a la génétique qui intervient. Il y a l'expérience de l'individu, il y a l'éducation. C'est pour ça qu'un individu ne peut être aucunement pareil à un autre.
Docteur, où est-ce qu'on classe alors le narcissique pervers ?
Là, c'est un trouble de la personnalité. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale, de maladies mentales. Il y a la maladie, comme on en dit maladie. On donne un traitement et au niveau de la crise, on voit la résolution des symptômes. Mais il y a des gens, des personnes qui, dans leur mode de fonctionnement normal, depuis qu'ils sont adolescents ou petits, ils fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent anormalement. On va vous dire que c'est un enfant qui nous a toujours posé des problèmes. Ça fait que c'est assez complexe, la prise en charge.
Ça nous donnera certainement l'occasion d'une édition.
Si vous voulez. Tous, nous savons ce qui est mauvais. Mais nous choisissons délibérément ce qui est mauvais pour une raison ou une autre. Et santé mentale, qui égale à bien-être, qui égale à amour, demande ce jour à toute la population entière. Parce qu'il y va de notre bien-être physique, de notre bien-être mental, social, médico-légal et même économique. Nous attirons l'attention sur l'économie. Si on a toute une population qui est dans un état de mal-être, parce qu'on ne peut pas résoudre ses besoins humains élémentaires, par exemple, manger, se laver, se loger, se nourrir, parce qu'il y a ça aussi. Quand on parle de bien-être, ce n'est pas que par rapport à la santé, c'est aussi par rapport à ses besoins humains élémentaires qui mettent automatiquement l'individu dans un état de mal-être. Prendre soin de soi et de l'autre, comme je prends soin de moi. J'aime bien manger, j'aime bien me vêtir, j'aime être bien. Il faudrait aussi que je sache que c'est pareil pour l'autre. Si on se comportait comme ça, c'est qu'on aurait une population où tous les comportements répréhensibles sur le plan social allaient complètement régresser.
Merci infiniment, docteur. Merci. Merci parce que nous avons retenu que nous devons tous faire de la santé mentale et du bien-être une priorité pour tous.
Oui. Merci beaucoup, la CIA TV.
Mesdames, messieurs, c'était tout pour SOS Docteur de ce samedi. Reprenons rendez-vous sur cette même antenne samedi prochain alors qu'il sera 20h30. La partie technique assurée par Renéna.